La traversée. La traversée de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. Une émission sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954, avec aujourd'hui Louise Picard. Louise Picard, bonjour.
Bonjour.
Louise Picard, merci d'être venue au micro donc de Radio Grenouille pour nous parler de vos voyages récents en Algérie, où vous vous êtes rendue dans le cadre de vos études.
Oui, alors je suis partie, en fait on est partie à deux, hein, avec une fille de ma classe qui s'appelle Souela, et donc on est partie dans sa famille, du côté de sa mère. Donc on a été logés dans cette famille-là. Ensuite, moi par la suite, j'ai été logée chez des amis en fait, hein, donc j'ai un peu eu un parcours un peu nomade en Algérie. Donc voilà, donc il y avait ce cadre-là. Et l'autre cadre, c'était celui du stage en lui-même, en fait. Donc j'étais dans une association qui s'occupe de beaucoup de choses, entre autres de patrimoine. Donc ils ont investi un site historique à Oran, dans le vieux quartier historique d'Oran, donc qui est composé d'un hôpital militaire et de bains turcs, donc avec un riche patrimoine. Ils y ont développé donc une école chantier qui a pour but de former des jeunes aux métiers traditionnels. Donc on a de la forge et de la ferronnerie, on a de la menuiserie, de la maçonnerie traditionnelle et de la couture pour les jeunes filles. Et ces formations s'adressent aux jeunes du quartier, donc de Sidi El Ouari et des alentours, qui sont, on peut dire, des bidonvilles issues de la décennie noire, en fait, hein, de l'exode rural lié au terrorisme. Donc voilà, cette association s'occupe également de prévention santé. Ils sont très liés à l'ONU dans ce cadre-là. Donc, prévention sida, hygiène bucco-dentaire, etc. Et il y a également une petite partie, enfin non, une bonne partie, on peut dire, culturelle. Donc, à la fois culture, musique arabo-andalouse, etc. Mais aussi quelque chose de plus moderne avec des organisations de soirées. Et pour finir, une petite commission échange dans le cadre duquel nous sommes arrivés.
La finalité de ce séjour, c'était de produire un mémoire, un rapport.
Pas exactement, il y avait plusieurs choses. La grosse partie, on peut dire, était de travailler donc avec les jeunes de cette école chantier, et de faire une action, ce qu'on appelle une action collective en travail social. Donc on s'est tout d'abord immergé en fait, hein, dans ce pays que je connaissais pas du tout et que mon amie en fait connaissait pas tellement non plus. Elle y était pas retournée depuis 10 ans.
Alors expliquez, elle est d'origine...
Elle est d'origine algérienne, hein, donc c'est pour ça qu'on était dans sa famille.
Mais voilà. Étudiante, bien sûr, en France, en tant qu'assistante sociale.
Voilà, exactement. Donc, donc elle connaissait aussi assez peu ce pays. Donc on s'est d'abord immergé dans le pays, dans l'association, dans le quartier. Et ensuite, on a dégagé des problématiques, ce qui a donné lieu à un devoir, donc un espèce de rapport sur une problématique que nous avions dégagée par rapport à ces jeunes. Et ensuite, ce travail avec les jeunes. Donc on a formé un groupe, hein, il y a environ 50 élèves dans cette école, enfin cette année-là. On en a dégagé une dizaine. Et le but, en fait, était de les aider à prendre du recul par rapport à eux-mêmes, à un peu prendre un peu de l'autonomie, ce qui est un peu compliqué à l'heure actuelle en Algérie. Et donc on a formé un groupe qui, assez simplement, avait pour but que les jeunes parlent de leur formation, de ce qu'ils font, pour essayer un peu de prendre du recul, et également de patrimoine, comme c'est l'objectif numéro un, on peut dire, de l'association, qui est de revaloriser le patrimoine algérien, et donc de leur faire visiter des sites historiques et qu'ils fassent un rapport là-dessus. Ça a donc donné lieu à une activité, hein, un jour donné, avec des invités, donc les adhérents de l'association, les gens du quartier, les autres élèves, les parents, etc.
Quoi. Le gouvernement algérien, je veux dire, les autorités, les institutions, suivent votre travail?
Non. Concrètement, les autorités suivent la wilaya, donc la préfecture suit l'association depuis un certain temps, mais il n'existe aucune subvention algérienne sur cette association. Ce sont uniquement des subventions européennes et internationales.
Donc vous aviez affaire à une association qui est reconnue, donc en quelque sorte, à l'étranger.
Voilà, beaucoup plus à l'étranger que nationalement, on peut le dire.
Ah, c'est un problème, ça.
C'en est un.
Non, mais parlons-en.
Oui. Non, c'est assez un souci, c'est-à-dire qu'en fait, cette association a un but d'éducation à la citoyenneté, hein, de manière assez large, plus ou moins bien remplie, mais c'est un objectif. Et ils ont extrêmement de mal, comme beaucoup d'associations algériennes, hein, donc à se faire reconnaître. Donc la reconnaissance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu un agrément de la wilaya pour investir ce site historique dont je parlais. Donc ils sont chargés de s'en occuper et de le rénover, hein, puisqu'ils le rénovent par le biais des formations, etc. Donc là est la reconnaissance, mais au niveau financier, concrètement, il y a assez peu de reconnaissance. Ça commence à venir de la part du Wali, hein, de la préfecture, qui est venue visiter le site, qui a promis des subventions, je sais À l'heure actuelle, je ne sais pas où ça en est, mais il n'y avait rien au moment où j'y étais.
C'est eux qui ont pris contact avec vous?
L'association?
Oui.
Non. En fait, mon école est en partenariat avec des associations dans tout le Maghreb pour des stages, en fait. Ces stages qui sont trouvés par un homme, Claude Lanel, qui a beaucoup travaillé dans tout le Maghreb et qui donc est en contact avec des associations et les a proposés à mon école. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est parti. On avait choisi la destination, en fait, hein, l'Algérie, Oran comme ville, étant donné qu'il y avait la famille de mon ami là-bas. Et l'association est venue compléter ce qu'on voulait. C'est-à-dire que c'était travailler avec des jeunes était quand même notre objectif.
Quel est l'esprit, la finalité de ces rapports qui ont donc été définis entre la France et le Maghreb?
C'est l'interculturalité, l'initiation à l'interculturalité. Le but, c'est de former des travailleurs sociaux, d'une part à l'action collective, ça c'est le but de la deuxième année, et par le biais des stages à l'étranger, de les former à l'interculturalité, à la prise en compte de l'autre, qui est quand même la base de notre métier, quoi, hein. Je veux dire, c'est de savoir aborder l'autre, d'établir une relation avec des personnes qui sont souvent très, très différentes de nous, quoi, dans le cadre de notre métier. Donc c'est vraiment voilà, cet objectif-là, l'interculturalité.
Et d'autre part, axé sur les métiers en gros de l'artisanat.
Non, pas spécialement. En fait, le but est de trouver une place dans ces associations. Il y a des associations très, très, très différentes. À Alger, par exemple, d'autres élèves étaient partis dans une association qui s'occupe de droits des femmes et des enfants. En Tunisie, certaines sont parties dans une association qui s'occupait de microcrédit. Donc, en fait, le but est d'amener du social dans une association qui en a ou pas.
Mais ouais. Ça s'inscrit dans une dynamique qui existe déjà dans le Maghreb, puisqu'il y a des associations.
Il y a des associations, oui. Mais ce qu'on est censé apporter est quand même un peu différent, quoi.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que le but, c'est qu'on aille faire quelque chose là-bas, qu'on essaie le cadre est vraiment un échange, quoi. Donc le but, c'est quand même qu'on aille apprendre là-bas, mais qu'on aille aussi amener des choses qui peut-être n'existent pas là-bas ou qui existent de manière différente.
Et à l'inverse, je veux dire, parce qu'il s'agit d'un partenariat en fin de compte.
Oui.
On peut dire ça.
Oui.
Donc à l'inverse, ça veut dire qu'il y a par exemple des jeunes que vous contactez, avec lesquels vous travaillez là-bas, hein, tout simplement, mm-hmm. Vous m'avez dit, durant 4 mois et demi, donc qui auraient peut-être la ressource, les possibilités de venir en France ensuite. Est-ce qu'il y a des échanges possibles dans ce cas-là?
En ce qui concerne les échanges avec mon école, voilà, il y a un début comme ça de partenariat qui est engagé, mais qui quand même au début était à sens unique, entre guillemets, dans le sens c'est des étudiants français qui partent au Maghreb.
On a donc parlé de précarité, mm-hmm. tout à l'heure. Alors c'est une question donc qui mérite qu'on s'y arrête parce que elle a des conséquences très diverses. Quand on parle de précarité, on pense à une précarité économique, bien sûr, mm-hmm. qui est certaine. Mais vous avez abordé à plusieurs reprises, au cours de plusieurs rencontres, enfin, le fait que cette précarité avait des conséquences très diverses, et notamment sur le plan culturel. Alors je ne sais pas comment on peut aborder ça. Mais c'est peut-être à vous à nous dire le choc que vous avez reçu, en fin de compte, la nouveauté que vous avez mmh. découverte en arrivant en Algérie. Vous avez donc découvert là-bas une certaine précarité.
Oui.
Est-ce que pour vous, ça dépend d'abord des classes sociales? Est-ce qu'on peut parler d'une précarité homogène pour tout le monde ou ce sont des précarités qui sont différentes selon les uns et les autres?
Non, on a affaire, de ce que j'ai vu moi en Algérie, à même plus qu'une précarité, quoi. On peut dire une très très grande précarité, c'est-à-dire les jeunes avec qui j'ai travaillé au sein de cette école chantier étaient des jeunes qui vivaient dans des conditions de logement très très difficiles, je veux dire avec pas d'eau courante, une promiscuité, voire dans les bidonvilles, donc là une insalubrité totale, hein, on peut le dire. Et ensuite, ça se traduit aussi, j'ai rencontré ces jeunes-là, qui sont dans des classes assez défavorisées, une espèce de... au niveau de la culture, plutôt de la tradition, une tradition qui était assez présente, tout en cohabitant avec une grande envie de modernité, quoi. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui, beaucoup ont des téléphones portables, par exemple, ou sont très dans la demande de communication avec des personnes étrangères, comme je pouvais représenter. Donc, il y a ça. La précarité et la culture, ça entretient un lien qui est assez direct, je pense. C'est-à-dire que en France, je rencontre plutôt au sein de mes stages une incidence sur la culture, c'est-à-dire une perte de la culture quand les personnes sont en très grande précarité. C'est-à-dire que il survit très très peu de choses de la culture, car les gens sont vraiment dans la survie économique totale, ça occupe toute leur journée, donc la culture perd sa place, on peut le dire. En Algérie, c'est un peu différent, il y a plus justement un renforcement de la tradition. Je ne parlerai pas forcément de culture, mais plutôt un renforcement de la tradition.
La plupart des gens que vous avez rencontrés, à l'origine, ne sont pas des citadins. Ils viennent des campagnes.
Une partie, mais c'est assez difficile. Enfin, c'est pas quelque chose qui apparaît de manière évidente dans le contact avec les gens. C'est pas ce qui apparaît en premier, non. Mais au sein du quartier où j'étais, il y a une espèce de rivalité. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont de ce quartier, qui en sont issus depuis longtemps, depuis voire plusieurs générations, et ceux qui sont arrivés pendant la décennie noire. Et quand on rentre dans du conflit, quand il y a du conflit, ça arrive, quoi. Ça vient faire éruption.
Oui, parce que ça fait deux fois que vous le dites, c'est qu'on est face à un problème assez nouveau en Algérie, à l'issue de cette guerre civile, on peut dire ça. Donc il y a eu des déplacements de population.
Énorme, oui. Oui, de gros déplacements de population. Je ne sais pas ce que ça représente en chiffres, hein, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de bidonvilles qui sont apparues, et également des squattages, enfin du squat, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans des bâtiments, vous voyez, dans un ancien hôpital militaire, par exemple, dans le quartier où j'étais, a été habité pendant la décennie noire par des gens. Enfin, voilà, il y a une espèce de grosse problématique d'habitat à Oran, en Algérie sans doute aussi de manière générale, hein. Et donc il y a une espèce de grande politique de construction de barres d'immeubles, un peu comme on a vécu dans les années 60 en France, hein. Et quand on va là-bas, tout de suite, on est très choqué par ça, parce que nous, on connaît l'échec de cette politique de construire des grands bâtiments et d'y mettre des gens dedans qui étaient habitués à vivre horizontalement et qui d'un coup se retrouvent à la verticale. Et en plus, qui ne correspondent pas du tout au mode de vie oriental. Enfin, ce qui est difficile, une difficile adaptation à ce mode d'habitat. Et on déplace concrètement les gens. C'est-à-dire le quartier où j'étais, au lieu de rénover les maisons, on déplace les gens de manière, on peut le dire, pratiquement forcée, à l'extérieur d'Oran, dans les banlieues, en fait, hein, nouvellement construites.
Cette politique de construction ne tient absolument pas compte, paradoxalement, des traditions d'habitat.
Non, pas du tout. Non, y a... on se retrouve dans un espèce d'habitat. Ouais, les barres d'immeubles en France, c'est-à-dire des habitats, quand même en Algérie, il y a des maisons qui sont relativement grandes. Alors même s'il y a beaucoup de monde dedans, il y a beaucoup de monde dans un grand espace. Ensuite, on se retrouve avec, en fait, on nucléarise les familles, hein, pour les mettre dans des appartements qui sont plus petits.
Oui, attendez, excusez-moi, oui. Précisons le terme, là. Parce que dans le monde oriental, la famille n'est pas nucléaire. Il faudrait nous dire deux mots là-dessus. C'est très important.
Oui. Mais c'est-à-dire que les logements construits sont donc plus petits, hein, type T3, T4, avec pas de cour intérieure. Enfin voilà, ça change tout. Et donc du coup, les familles sont soit plus à l'étroit, soit divisées entre, par exemple, si deux frères vivent avec leur femme et leurs enfants dans la même maison, ils vont se retrouver dans deux logements différents. Ça peut se trouver comme ça.
C'est-à-dire que le logement est réduit à la notion de ménage.
Oui, voilà. Alors,
que ça ne correspond pas à une tradition.
Voilà. Ce que j'ai plus vu, moi, on peut dire, c'est du coup les conséquences sur la manière d'habiter les maisons et la manière de vivre, en fait. Hein, tout simplement, ça change ça, en fait. Puis même le fait d'être... Il y a le type d'habitat, mais il y a aussi le lieu. C'est-à-dire que Oran, Sidi El Ouari, le quartier populaire où j'étais, c'est un quartier qui est un peu en contrebas d'Oran, mais qui est plutôt près du centre, on va dire très, très près du centre. Et... on déplace ces gens-là à l'extérieur d'Oran. Oran, c'est 3 millions d'habitants, donc c'est une étendue immense. Donc du coup, quand on les met à la banlieue, ça équivaut à sortir quelqu'un du centre de Paris pour aller le mettre à Saint-Denis, quoi. C'est une migration qui est importante.
Mais l'Algérie avait déjà souffert pendant la guerre d'Algérie, souffert d'immenses regroupements qui s'étaient déjà effectués à l'époque. Ce qui faisait dire à des sociologues algériens qu'il y avait une ruralisation de la société algérienne. Et là, il y a une deuxième vague, parce que c'est un peu ça que vous nous dites, consécutive à ces années noires, qui renforce, qui accroît encore les problèmes.
Oui, mais c'est-à-dire que ça résout le problème à très court terme. ça le, à long terme, c'est l'inverse total, quoi. Enfin, après, on ne peut pas dire qu'il va se reproduire ce qui s'est produit en France, hein, mais c'est sûr que cet habitat en grande barre d'immeubles, qui en plus sont construites pas toujours de manière très. Sont pas toujours très bien faits, quoi. Hein, donc, du coup, c'est aussi la dégradation du bâti que ça va entraîner, quoi, qui pose question.
Donc, précarité qui, évidemment, qui a comme conséquence des problèmes culturels. Mais l'expérience que vous avez vécue, on voit aussi qu'il y a des essais d'adaptation, des stratégies d'adaptation. C'est un peu l'expression que vous aviez une fois employée dans d'autres lieux. Et donc, pour nous dire un petit peu, c'est que les gens essaient tout de même de trouver une solution à la situation qui leur est faite. Alors, quelle façon? Ça dépend de quoi? Est-ce que ça dépend de la classe sociale? Ça dépend du métier, des choix qu'ils font? Ça dépend des lieux où ils se trouvent? Est-ce que c'est quelque chose de simple à examiner ou est-ce que c'est toujours très complexe?
Ben c'est très compliqué parce que moi j'ai rencontré, on peut dire, deux types de jeunes entre guillemets en Algérie. Donc les jeunes avec qui j'ai travaillé, issus du quartier défavorisé, etc. Et les jeunes qui sont adhérents de l'association, donc qui eux sont plutôt des étudiants ou des gens qui travaillent. Donc ils sont issus, on peut dire, entre guillemets, des classes moyennes algériennes. Mais les deux rencontrent des problèmes à des niveaux différents. C'est-à-dire que les jeunes des classes défavorisées, donc ils ont ce souci économique, le problème du débouché du travail, puisqu'il y a énormément de jeunes en Algérie, excusez-moi, et pas beaucoup de travail, quoi. Très très peu de débouchés. Donc il y a tous ces jeunes qui développent du trabendo, hein, donc qui vendent des cigarettes sur le port, qui, quand leurs parents sont commerçants, travaillent dans le commerce, etc. Donc on a tout ça. Ils cherchent à avoir donc du coup un peu d'argent pour se débrouiller, pour subvenir, pour s'acheter à manger le midi, hein, tout simplement. Ça va pas forcément très loin. Hein. Ensuite, il y a ces jeunes, ces étudiants qui, eux, sont plus dans une logique d'études, tout en sachant que la fin des études conduit beaucoup, beaucoup au chômage. Donc, qui, eux, développent une espèce de vie un peu parallèle, quoi. Enfin, voilà, où ils se tissent un réseau amical, où ils jouent beaucoup de musique, où ils se retrouvent entre eux dans les cafés. Voilà. Il y a toute cette vie-là un peu qui se développe et sur laquelle ils se reposent, on va dire, quoi.
Et est-ce que là, les traditions sont vécues d'une manière différente quand il s'agit d'étudiants, par exemple?
Oui, bah, c'est-à-dire que moi, j'ai été assez agréablement surprise, on va dire. C'est-à-dire que les jeunes là-bas sont très différents des jeunes qu'on peut voir qui sont issus de l'immigration, qu'on peut voir en France. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture plus grande pour les étudiants que j'ai rencontrés, donc c'est pas non plus tous les Algériens, mais une grande ouverture qui contraste quand même avec certains types de jeunes qu'on peut rencontrer ici qui ont tendance à être plus dans un repli sur une certaine tradition. Par exemple, la question de la virginité ou la question de manger du porc ou ce genre de choses qui est quand même moins tabou, à mon avis, chez les jeunes algériens. Les jeunes oranais, en tout cas, parce que les oranais sont un peu particuliers en Algérie, quand même.
Vous êtes en train de dire que vous avez été surprise par un certain degré d'ouverture.
Oui, auquel je ne m'attendais pas forcément. Hein, enfin, ne connaissant pas l'Algérie, ayant un regard voilà, un peu neuf, quoi. Finalement, voilà, il y a une certaine ouverture, ouais, à un certain niveau. C'est-à-dire que des choses cohabitent chez eux, c'est-à-dire ils cohabitent une certaine tradition. Je veux dire, le mois de Ramadan est sacré. Je veux dire, ces jeunes-là vont faire la prière, par exemple, pendant le Ramadan. Enfin, voilà, il va vraiment y avoir la tradition qui va survivre. Mais à côté de ça va être des jeunes qui vont aller dans les cafés, qui vont parler avec des filles, qui vont sortir avec des filles, qui vont fumer, qui vont boire pour certains, qui vont manger du porc pour certains s'ils peuvent en trouver. Enfin voilà, il y a un peu ce côté-là, quoi.
Donc, selon les milieux, on parle ou on ne parle pas d'échec de la modernité.
On en parle différemment. C'est-à-dire que ces étudiants, il y a un échec dans le sens où la voie royale des études n'en est pas une. Ils ne trouveront pas ou difficilement du travail. Ils ont des conditions d'études qui sont, je veux dire, assez lamentables, hein, sachant qu'il y a une grosse fuite des cerveaux algériens. Donc, je veux dire, au niveau de leurs professeurs, tout simplement, c'est compliqué de trouver des gens compétents pour leur apprendre leur futur métier. Des métiers quand même qui sont médecins, architectes, ce genre, enfin, urbanistes. Je parle quand même de métiers qui sont très important, quoi, où des vies sont en jeu. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Mais ça veut dire que dans le moyen terme, ça peut être très difficile en cas de mariage, par exemple, pour trouver un appartement, pour pouvoir subvenir aux besoins. Quelle est la plus grande difficulté? De se mettre en ménage, d'avoir une forme de modernité dans les relations entre un homme et une femme, ou bien entendu, les problèmes matériels qui vont se poser.
Ben, les problèmes matériels sont quand même prépondérants, je dirais. C'est-à-dire que on assiste quand même à ce que beaucoup de jeunes Algériens vivent très très longtemps chez leurs parents, parce que financièrement, ils ne peuvent pas assumer une autonomie. Et donc, un mariage, puisque quand même, il y a cette histoire de la dot qui reste quand même assez présente. Et si c'est pas la dot, c'est quand même le fait que le mari doit pouvoir offrir un logement à sa femme à moyen terme, parce qu'il existe quand même la tradition où, je veux dire, quand il y a un mariage, le fils, s'il n'y a pas encore de logement, vit avec sa femme chez ses parents. Mais à un moment donné, ça, il faut que ça s'arrête, quoi. Et donc, forcément, à un moment donné, ça bloque, et donc on a une espèce comme ça de jeunesse qui s'éternise et qui pose, voilà, qui commence à poser de vrais problèmes, quoi.
Et on vous parlait de cela de manière très ouverte, vous aviez des discussions là-dessus?
Oui, chez ces jeunes-là, ça se dit assez facilement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans quelque chose de très réel. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment tabou entre eux. Il y a des choses taboues. Après, voilà, moi, je suis une fille. Il y a un peu le côté, avec les garçons, le côté confidence, etc., qui joue aussi. Mais un homme va voir toute autre chose, par exemple, en Algérie. Va voir des choses où une femme ne peut pas aller, quoi, concrètement. Donc, mais ils parlent, ouais, assez facilement, quand même, de leur quotidien, et ils sont vraiment dans une volonté de communication, quoi. C'est-à-dire, enfin, qu'il y ait des étrangers qui viennent en Algérie, c'est quand même un signe aussi pour eux que l'Algérie se rouvre à nouveau au monde aussi, quoi. Et pendant 10 ans, quand même, ça a été très très difficile pour eux. Et donc, du coup, c'est aussi tous des jeunes qui ont vécu leur adolescence pendant la guerre. Donc là, c'est vraiment une espèce de bouffée d'oxygène aussi, discuter avec des gens d'ailleurs. C'est
Oui,
leur pays.
c'est-à-dire que on revient encore là-dessus, c'était à savoir que durant 10 ans, c'est le blackout complet, c'est une espèce de couvre-feu, en tous les cas culturel, qui tombait sur l'Algérie. Donc quand vous arrivez là-bas, bah, évidemment, c'est un jour nouveau.
Ouais, c'est un jour nouveau. Et même si Oran a été assez peu touché par le terrorisme par rapport à Alger ou d'autres villes, on ressent quand même ça. Il y a certains quartiers où on le ressent aussi particulièrement, quoi. Il y a le centre d'Oran qui veut vivre, tous ces jeunes qui maintenant veulent vivre, veulent faire la fête, etc. Mais alors, ils ont entre 20 et 25 ans, quoi. Ils ont vécu très jeune la guerre. Après, il y a des quartiers, ceux qui ont été plus touchés par le terrorisme, je pense notamment à un quartier où j'ai vécu assez peu de temps, qui reste assez sclérosé, en fait, hein. C'est-à-dire, quand on arrive et qu'on n'est pas connu, les gens sont un peu étonnés, se demandent ce qu'on fait là, il y a une espèce de méfiance.
Il y aurait une question un petit peu à évoquer, à savoir que, puisqu'on est toujours dans ce thème de la précarité, elle touche en fait tout le monde. Mais selon les personnes qu'elle touche, celles-ci réagissent différemment. Mais vous, quand vous êtes allé là-bas, ça a été une découverte. Vous y alliez avec des idées reçues, je suppose. Ça a été quoi ce changement pour vous?
Ben moi, j'ai pas l'impression d'être partie vraiment avec des idées reçues. Moi, j'avais beaucoup de mal avant de partir à me projeter dans ce que ça allait être, quoi. J'arrivais pas du tout à m'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être. Et donc, en arrivant là-bas, j'avais un peu une espèce de virginité, quoi, on peut dire. J'avais bien sûr un imaginaire. J'ai beaucoup lu d'auteurs algériens. J'ai beaucoup entendu parler aussi. J'ai fait essayer de creuser un peu. J'ai étudié les débuts de l'islam à la fac. Enfin voilà, j'ai une espèce de début de quelque chose, quoi. Hein. Mais mes idées reçues étaient assez peu présentes, ou en tout cas pas très claires.
Pourtant, c'est un des thèmes de votre travail, à savoir le regard qu'on porte sur autrui est toujours très difficile et il remet en question votre propre identité. Donc, est-ce que vous avez ressenti avec cela un écho? Est-ce que de l'autre côté, il y avait aussi une nouveauté, une découverte quand vous discutiez?
Oui, il y avait un peu ce côté, on se découvre un peu les uns les autres, quoi. C'est-à-dire, quand on est arrivé là-bas, mon ami et moi, on nous a beaucoup fait visiter Oran, on nous a beaucoup amené des endroits, on nous a beaucoup parlé. Alors, il y avait un peu ce côté nous faire découvrir, il y avait aussi un peu ce côté façonner un peu ce qu'on pense, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie aussi des Algériens qui nous dit, mais l'Algérie, c'est bien, il faut qu'on pense que c'est bien, parce qu'ils se sentent par les médias occidentaux beaucoup beaucoup attaqués quoi. Donc du coup, il y a aussi ce côté on est un peu missionné pour aller porter la bonne parole quand on rentre en France. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça qui joue.
Est-ce qu'on peut parler de réussite en même temps? Est-ce qu'il y a en même temps une dynamique, un effort de réussite? Parce qu'au fond, tout le monde, vous étiez ensemble pour réussir quelque chose.
Ouais. Il y a un côté très très dynamique. En Algérie, bon, il y a énormément de jeunes, donc déjà ça dynamise beaucoup le paysage. Ensuite, il y a aussi, par exemple, les jeunes avec qui on a travaillé au sein de l'association, ils sont là pour engager une formation professionnelle. Souvent, ils avaient arrêté l'école, soit il n'y a pas longtemps, soit aussi certains, ça faisait des années qu'ils avaient pas qu'ils étaient dans la rue et qu'ils travaillaient, etc. Donc, cette association, elle porte un espoir pour les jeunes. C'est l'espoir d'avoir un travail, d'avoir un vrai travail et d'avoir un travail en Algérie aussi. Et d'essayer, le but de l'association est aussi un peu de retourner ces jeunes vers leur pays. Parce qu'en fait, le souci est que ces jeunes ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir et donc sont dans un espèce de rêve d'émigration qui les empêche de construire leur quotidien. Donc cette association, voilà, elle est porteuse d'espoir et de dynamique, et les adhérents, donc ces étudiants, sont aussi dans cette association pour ça, c'est-à-dire pour se retrouver, pour créer une dynamique. Je veux dire, il y a des ateliers théâtre, ils font du chant, voilà, il y a des formations qui sont proposées par cette association, à la fois en Algérie, mais aussi à l'étranger, des chantiers d'été qui sont proposés. Donc il y a vraiment, voilà, tous ces gens que j'ai rencontrés par le biais de cette association sont dans une espèce de dynamique quand même de réussite, de s'en sortir et d'essayer de vivre bien en Algérie.
Il y a quelques instants, on évoquait des jeunes gens qui viendraient en France faire un court séjour pour se rendre compte.
Oui.
Ensuite, reviendraient en Algérie. Parlez-nous un petit peu de ça.
De ce partenariat.
Voilà, c'est-à-dire un peu pour se faire une idée de ce qui se passe ici.
Oui. Alors il y a ça, il y a l'idée de que ces jeunes de l'école chantier viennent en France pour rencontrer d'autres jeunes, voir un peu la réalité et donc du coup être dans le réel en fait. Et il y a aussi cette idée de partenariat, donc de formation des formateurs à la pédagogie, etc., qui est à la fois porteur de dynamisme et en même temps le signe un peu de quelque chose de tragique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être formés dans leur pays. Et ça, c'est quand même, ça me semble pas très réjouissant, quoi, de dire qu'il faut qu'ils aillent à l'étranger pour être formés à la pédagogie ou à des métiers traditionnels, quoi. Il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui se délitent en Algérie à ce niveau-là, quoi.
C'est-à-dire...
Ben, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, il y a un problème au niveau du savoir, il y a un certain manque, quoi. Il y a un manque de savoir, comme je le disais, les étudiants qui ont du mal à avoir des professeurs qui soient compétents. Il y a un moment donné, au niveau du savoir, il y a une difficulté à l'accès au savoir. Et ça se traduit, par exemple, de manière très très concrète, par le fait que, il y a beaucoup de Chinois qui viennent en Algérie pour construire des bâtiments, etc.
On parle de 80 000 Chinois qui seraient arrivés en Algérie
Oui.
pour construire des maisons
Voilà, et faire du commerce également.
et faire du commerce.
Oui, faire du commerce, et il y a eu toute l'importation aussi de produits chinois de la part de l'Algérie, hein. Donc tout ça est la conséquence de la logique de coopération sud-sud, hein, de la Chine. Et puis aussi des accointances idéologiques, hein, autour du socialisme, etc., mais qui, même si en Algérie perd la vitesse, reste quand même un peu présent, quoi, hein. Donc il y a tous ces Chinois, enfin tous ces Chinois, 80 000, c'est pas non plus énorme, mais quand même, qui viennent pour construire et pour faire créer notamment des bâtiments qui deviennent peu à peu l'emblème d'une ville. Par exemple, l'hôtel Sheraton à Oran est un très beau bâtiment qui a été construit récemment par des Chinois et qui devient un peu la référence à Oran. C'est là où il se passe toutes les soirées les plus chics, etc. Et c'est bien d'avoir ce beau bâtiment, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est dommage que voilà, que ce savoir ne circule pas à l'intérieur du pays,
Mais
quoi.
c'est vécu comment? Par la population et par ceux qui seraient censés travailler dans un bâtiment?
Ben, y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a un certain racisme qui se développe à l'encontre des Chinois, comme ça j'ai pu le voir, et il y a en même temps, quand on dit aux gens, mais pourquoi il y a des Chinois en Algérie, les Algériens répondent, mais parce que les Algériens savent pas travailler, sont des fainéants, etc., quoi.
Et ça, c'est un discours officiel qui est entré dans la tête des gens, ou c'est...
Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme une espèce de discours officiel, oui, qui serait rentré un peu dans les mœurs. Et puis, bon, ça participe aussi de l'humour algérien, hein. Enfin, il n'y a pas que
Oui.
du drame là-dedans. Je veux dire, ils disent ça aussi avec un certain humour.
Enfin, certaines meurent, oui, bien sûr. Mais en même temps, il est tout de même difficile d'accepter que, sur une question aussi cruciale que le bâtiment, on soit obligé de faire appel à une main-d'œuvre qui est de l'autre côté de la planète. Et après tout, on ne trouve pas beaucoup d'Algériens en Chine.
Effectivement. Bah, après, c'est aussi que la main-d'œuvre chinoise est beaucoup moins chère, qu'il y a des facilités, et on voit ça avec la mondialisation, on voit ça dans beaucoup de pays, hein. Je veux dire, en France, c'est
Mais
pareil.
cette question, en fait, quand on parle de précarité, c'est aussi parce qu'on essaie de voir s'il n'y a pas une... quels sont les espoirs d'intégration économique. J'entends pour les jeunes Algériens qui vivent en Algérie. Il y a plusieurs obstacles. Celui de la tradition, on l'a évoqué, et peut-être celui d'un discours officiel.
Oui. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les Algériens vivent assez coupés des institutions de leur pays. Ils y ont assez peu à faire, au final. Et ils évitent, parce que c'est un tel parcours du combattant que d'avoir affaire aux administrations algériennes, et je parle en connaissance de cause, qu'ils y ont assez peu à faire. Elle n'est pas très efficace, l'administration. Donc du coup, ils en vivent assez coupés. Et en même temps, il y a le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, qui quand même est assez aimé des Algériens. C'est l'homme qui a permis que s'arrête le terrorisme, c'est l'homme qui défend un peu la fierté algérienne vis-à-vis de l'Occident. Enfin, il y a tout ça.
Il est quand même critiqué par une opposition.
Bien sûr, non, non, je n'ai pas du tout ça. Il y a une grosse critique de la part de l'opposition, mais il y a aussi une espèce de gratitude envers lui qui existe
Oui, pour la...
et qui est malheureusement indéniable, quoi.
Eh oui, tout simplement parce que, compte tenu des horreurs qui ont été vécues en Algérie, Bouteflika, à sa façon, quelle qu'elle soit, a su y mettre fin.
Voilà, et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, voilà. C'est sûr qu'après, mais bon, ce que les Algériens répondent à ça, c'est qu'ils disent qu'on a tous, les Occidentaux, on les critique, mais que Chirac est un voleur aussi, quoi. Donc, eux, c'est un peu comme ça qu'ils voient les choses, c'est-à-dire qu'il y a des paradoxes et c'est comme ça.
On a parlé donc de ces obstacles. On revient peut-être aux obstacles culturels, la tradition. Parce que ça, vous le voyez aujourd'hui en France. Vous avez une expérience d'assistante sociale. Vous êtes amené, dans votre formation, à rencontrer des personnes. Comment peut-on poser la question? À savoir que est-ce qu'on doit juger les gens que l'on reçoit, accepter? Quel discours pouvez-vous avoir, par exemple, quand vous avez des gens qui viennent et qui ne réagissent pas comme vous l'attendez?
Ben, toute ma formation consiste à justement ne rien attendre des gens que je reçois. L'idée, c'est de composer avec ce qu'on a. Donc, notamment dans le cadre de mon stage à Médecins du Monde, qui est quand même un lieu assez particulier, qui n'est pas une institution, qui accueille des gens qui n'ont pas de droits, qui sont sans papier, qui n'ont pas de couverture sociale, etc. Là, on est plus, mais bon, de manière générale, on devrait l'être aussi, dans qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens, où est-ce qu'on peut les informer, parce que notre grosse question est là, c'est l'accès aux droits. Donc, la culture, les différences, etc., c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en compte, on doit toujours faire en fonction de ça, mais on ne travaille pas directement sur ça. C'est-à-dire que le but est d'engager une relation avec les gens, d'avoir quelque chose malgré les différences. Enfin, on rencontre des gens, enfin, notamment dans le cadre de Médecins du Monde, des Turcs, des Kurdes, des Palestiniens, beaucoup, beaucoup d'Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des personnes d'Europe de l'Est. Enfin, voilà, donc des gens très, très différents avec lesquels le but est d'engager une relation et de voir ce qui est possible. On a des gens qui ne veulent pas avoir de couverture sociale, c'est leur droit.
C'est-à-dire...
Ben, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas qu'on les aide à avoir une couverture sociale, c'est à eux d'en décider. Et c'est le but aussi du travail social, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que les gens ils soient acteurs de leur situation. Même si, de notre point de vue, on pourrait se dire ils sont acteurs dans la destruction, ils sont acteurs. Le premier but est quand même là.
Oui, mais vous dites qu'ils sont acteurs même dans la destruction. C'est-à-dire que
De
ça
notre point
dépend
de vue.
aussi de la façon dont ils vous perçoivent et ce que
Oui,
vous ressentez.
bien sûr. On est toujours dans une relation de transfert et contre-transfert hein, dans le travail social. Donc, y a un peu ce côté. Le but, en fait, est de favoriser la parole de la personne. Donc, on doit, mon avis à moi, bon, qui est ma position éthique, est de ne pas m'imposer aux gens. C'est-à-dire d'essayer de voir ce qui est possible, de les faire parler eux. De me situer moi, de leur dire où je me situe, mais aussi que eux, leur montrer qu'eux aussi ont une place et qu'ils ont des choses à y faire, quoi.
Les échanges de regards sont différents en France qu'en Algérie. On
Oui.
n'est pas perçu de la même façon.
Oui, on n'est pas perçu de la même façon, ça c'est sûr.
Vous avez des exemples à me donner?
Des exemples de comment on est perçu. C'est assez compliqué parce qu'en fait ici, en tant qu'assistante sociale, bon, stagiaire mais assistante sociale quand même, on est plus perçu en fonction de sa propre fonction, de son travail, c'est-à-dire l'assistante sociale, de ce qu'on peut apporter, de ce qu'on peut faire pour les gens. En Algérie, la fonction, c'est quelque chose qui se pose différemment. C'est-à-dire qu'on est plus. La question, c'est plus qui on est, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut. C'est plus ça qui est en question. C'est-à-dire qu'en Algérie, on est complètement. Enfin, moi, j'étais complètement happée comme ça par ce système, par ce fonctionnement, quoi.
En Algérie,
En Algérie, oui.
oui, mais ce sont peut-être aussi quelquefois les mêmes personnes.
Oui. Oui, ça peut être ça.
Non, c'est la question que je vous pose.
Oui, oui,
C'est-à-dire
oui.
que selon qu'elle se trouve face à vous en Algérie ou en France, vous sentez un comportement différent.
Faudrait faire l'expérience,
Et vous l'avez faite.
mais oui, plus ou moins. Mais c'est-à-dire qu'on retrouve des choses. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des Algériens maintenant ici en France, qui parlent pas très bien le français, donc du coup, j'essaie de leur parler un peu en arabe, et donc tout de suite, ça facilite le retour à un mode de relation tel que je pourrais l'avoir vécu en Algérie. C'est-à-dire que tout de suite, on est intégré dans quelque chose. J'ai vécu en Algérie, donc tout de suite, on me met à une certaine place que je n'aurais pas du tout, par exemple, si je n'avais pas été en Algérie, quoi. Et j'aurais beau parler arabe, j'aurais beau être très intéressée par la culture algérienne, le fait d'y avoir vécu fait que les Algériens que je rencontre ici, et qui le savent, tout de suite, on est dans quelque chose de très algérien. Les gens, je sais pas, peut-être qu'on pourrait dire qu'ils redeviennent naturels. C'est-à-dire que.
C'est-à-dire...
Ben, c'est-à-dire que tout de suite, on se retrouve dans un mode de relation auquel ils sont habitués, eux. Voilà, c'est peut-être ça que je veux dire. C'est-à-dire à cette relation plus personnelle, quoi. Tout de suite, on est dans quelque chose de très personnel.
Vous êtes en train de dire que lorsqu'on a affaire à une assistante sociale en France, et lorsqu'on est d'origine immigrée ou immigrée, peu importe, donc dans une situation précaire, le fait d'aller voir une assistante sociale vous impose quelque chose, c'est-à-dire vous met dans une certaine position, dans un certain comportement. Mais ça, c'est très difficile. Comment vous arrivez à trouver une solution à ce problème? C'est-à-dire que les gens ont un comportement différent, vous le dites, s'ils sont en Algérie ou en France. Donc, quand ils sont en France, ils sont pas censés avoir un certain comportement, un certain regard avec vous. Mais comment vous arrivez, donc, là, vous êtes allé en Algérie, d'accord, mais toutes les assistantes sociales ne sont pas parties en Algérie.
Non, 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 et c'est très bien comme ça. Ce que je veux dire, c'est que aller voir une assistante sociale, ça place, donc, comme vous dites, dans une logique qui est quand même assez compliquée, qui est la logique de demander quelque chose, et de comment demander, et de comment dire qu'on a des problèmes, sachant que, en ce qui concerne les personnes qui viennent de pays maghrébins ou peut-être même orientaux, il y a une espèce de fierté qui... C'est très difficile. Ils viennent de sociétés qui sont très basées sur l'apparence. Juste pour l'anecdote, les jeunes avec lesquels j'ai travaillé en Algérie, je veux dire, vivent dans des conditions absolument exécrables. Ils sont très propres, ils ne laissent rien paraître. Enfin, voilà. Et donc... En France, les personnes issues de ces cultures ont des, je pense, pas toutes, hein, mais ça met dans une logique assez compliquée de venir en demande. Et l'assistante sociale, dans ce cadre, elle est plus la représentante de quelque chose. C'est pas vraiment une personne, c'est-à-dire qu'elle est représentante de l'institution dans laquelle elle travaille. Donc, Médecins du Monde, le Conseil Général ou autre. Donc, ça pose un cadre relationnel qui est assez... Qui est là, quoi. Je veux dire,
oui, une institution, soyons clairs, une institution française, en fait, vous voulez dire.
Oui, une institution française qui pose le cas d'une relation. Et je veux dire, les gens qui vivent en France savent plus ou moins, mais savent où ils sont, ce qu'ils y font et quelles sont les institutions. Donc, du coup, forcément, ça induit des comportements différents. En étant en Algérie, je suis la même personne. J'ai un rôle un peu différent en Algérie puisque je ne fais pas vraiment un travail d'assistante sociale là-bas, à proprement dit. En tout cas, pas dans la relation individuelle. Mais forcément, le cadre de la relation est différent puisque je viens là, je suis étrangère. Je suis stagiaire, je suis jeune, je suis une femme. Donc, c'est plus dans ce cadre-là qu'on se retrouve, quoi.
Avec votre camarade de promotion...
Souhaila.
Voilà. Vos points de vue se sont écartés, se sont rapprochés, sont identiques, vous ressentez les mêmes problèmes?
Oui, alors on ressent, pendant ce stage en Algérie, on a ressenti les problèmes de façon assez parallèle, on va dire. Après, dans la manière de les aborder, on a chacune aussi notre positionnement, quoi, hein, qui est... en Algérie, c'était aussi plus compliqué pour... on avait forcément des positionnements différents dans le sens où elle étant d'origine algérienne, parlant l'arabe, etc., ça favorise des choses. Moi, mon positionnement favorisait d'autres. Mais c'est vrai qu'on a eu un peu une interprétation des problèmes à la fois des jeunes qu'on rencontrait, mais aussi du fonctionnement de l'association, etc., qui était assez proche.
Ce qu'on vous demande dans votre mémoire, c'est dressé sur des considérations pratiques ou d'en tirer des conclusions un peu plus générales.
Alors, le but au niveau du mémoire est donc de dégager une problématique autour d'un thème, donc en ce qui me concerne donc la précarité et la relation à l'autre, et ensuite d'élaborer un raisonnement théorique à ce niveau-là, et ensuite de proposer une hypothèse d'action, c'est-à-dire en gros de proposer des solutions, de comment on peut faire. Donc, la finalité de mon mémoire sera de proposer... comment engager une relation avec des personnes en très très grande précarité.
Est-ce que le thème de la mémoire a été pour vous quelque chose d'important? Est-ce que vous êtes toujours confronté à cela?
La mémoire, voilà, on y est toujours confronté. Particulièrement, je dirais, j'y ai été confrontée évidemment en Algérie. J'ai beau être arrivée avec... cette espèce de regard un peu vierge dans un certain sens, quand on arrive, on signifie beaucoup de choses aux gens. Je représente la française, voilà. Donc, il y a ce côté-là, il y a cette espèce de volonté très humaine de vouloir catégoriser les gens et de vouloir dire telle personne, elle est comme ci, comme ça, elle est porteuse de telle chose. Donc, c'est tout un travail de travailler avec cette mémoire, en fait. C'est-à-dire que, bon, en Algérie, il y a évidemment la mémoire de la colonisation, mais aussi beaucoup du regard porté par les Occidentaux sur le monde arabe et les Algériens en particulier, quoi.
Il y a une particularité qui concerne l'Algérie pour vous, ça vous semble important?
Oui, ça me semble très important parce que on est à la fois très proches. Enfin, moi, j'ai eu des sentiments de grande proximité avec des personnes là-bas, hein, je veux dire
Avec l'Algérie, donc.
avec des Algériens, je veux dire une espèce de compréhension possible, hein, je veux dire on s'entend pas toujours, on se comprend pas toujours forcément, je veux dire je doute qu'on se comprenne facilement avec un Indien d'Amazonie, par exemple, comme on peut s'entendre avec un Algérien, faut aussi remettre ça, hein, dans son contexte, quoi. Les gens parlent beaucoup français, etc. Et en même temps, on regarde la même télévision, par exemple, pour beaucoup. Et en même temps, chacun le fait avec son propre regard, avec ses propres interprétations, sa propre vision des choses. Et moi-même, en étant en Algérie, ça m'a permis de beaucoup me décentrer, en fait, hein, en vivant là-bas pendant 5 mois, ben, ça modifie les points de vue, ça modifie la vision dans l'espace, ça modifie plein de choses, et même le regard sur l'actualité. Par exemple, moi j'étais en Algérie quand le Hamas a été élu en Palestine. Et en vivant là-bas, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est parce que j'étais là-bas, mais je veux dire, moi, ça ne m'a pas étonnée, par exemple, ça. Je n'ai pas été étonnée. Et en parlant avec des Français, avec qui j'avais quand même des liens, etc., des gens de ma famille qui sont très politisés, etc., il n'apparaissait pas du tout la même chose. Il y avait une espèce d'étonnement, de stupeur, de c'est pas normal, quoi. Alors que si, ça l'est, finalement, c'est assez cohérent. Voilà, c'est ça que je veux
Cohérent
dire.
par rapport à ce que vous avez vu.
Bah, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'en ai compris, même si la Palestine, c'est loin d'être l'Algérie et que c'en est très loin.
Vous voulez dire qu'on n'a pas, on n'a pas de quoi être surpris.
Voilà, on n'a pas de quoi être surpris. Et finalement, ça, c'est aussi une question de. Bah, c'est toute la question de l'ethnocentrisme qui fait qu'on a son regard, ses valeurs, et qu'on a beaucoup de mal à imaginer que d'autres aient des valeurs différentes. Mais ils ont le même problème en Algérie. C'est la question, par exemple, de la religion est très compliquée en Algérie. Moi, en tant que Française et athée, c'était très très compliqué, quoi. Il m'arrivait même parfois de dire que j'étais chrétienne pour pas m'engager dans des polémiques sans fin, on va dire. Parce que c'est d'imaginer quelqu'un qui n'a pas de religion, c'est pas imaginable, justement. C'est pas vraiment imaginable. Même pour des jeunes modernes, ouverts, etc. C'est il y a un moment donné, ça,
C'est impensable.
voilà, il y a une espèce de quelque chose d'impensable, quoi.
En même temps, il y a, ce sera peut-être un peu le mot de la conclusion, il y a en même temps une culture commune.
Oui, ben, il y a une grande proximité quand même. Il y a des choses qui traversent. Il y a une connaissance commune. Il y a une mémoire à un moment donné qui se rejoint, hein, la mémoire de l'Algérie française. À l'heure actuelle, en Algérie, enfin, moi j'ai rencontré des gens qui ont vécu la colonisation étant jeunes, donc qui connaissaient des Français, qui en voyaient et qui en même temps sont tout à fait capables maintenant d'être dans une relation d'égal à égal avec des Français. Je veux dire, ça, à la fois il reste des choses, des processus de la colonisation et en même temps. On arrive individuellement dans les relations interpersonnelles à en sortir aussi un peu.
Votre espoir, c'est dans la jeunesse. D'ailleurs, vous êtes très jeune.
Oui, 21 ans.
Voilà, vous êtes un âge, on peut dire.
On peut dire ça. Oui, bon, moi j'ai beaucoup rencontré des jeunes en Algérie. Bon, il y a aussi beaucoup de jeunes en Algérie, donc c'est un peu normal. C'est vrai qu'il y a une espèce de. Il y a des possibilités. Il y a des grandes possibilités. Il y a un grand potentiel complètement inexploité. Donc. Il y a des possibilités après à savoir comment ce sera mis en œuvre, c'est une autre question.
C'est une autre question. Je vous remercie, Louise Picard.
Merci.
C'était la traversée de Lucien Bertolina et Gilbert Assina. Nous nous retrouverons donc le premier dimanche du mois de décembre, toujours sur 3-8 Grenouille. Cette fois-ci avec Frédéric Voilet. Bonsoir.